Mes frères et sœurs, bonjour. Est-ce qu'il y a parmi nous des frères et sœurs qui ont des besoins dans leur cœur? Beaucoup? Est-ce que ça vous arrive de dire, je ne demande pas grand-chose, mais j'ai besoin de courage? Non? J'ai besoin de force? Non? Et je viens dans la maison de Dieu afin de renouveler mes forces dans le nom du Seigneur. Vous savez, ce vieux cœur qui dit, veux-tu, allez-y, veux-tu, dites-le, veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est, et alors on chante souvent, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par quoi, de qui? Et en or. De Jésus, mon sauveur. Vous croyez que c'est vrai? Je suis fort par le sang de Jésus. Et c'est formidable de pouvoir entendre dans le monde entier chanter ce petit cœur. Je l'ai chanté avec les peaux rouges au sud de Chicago dans une assemblée où ils étaient réunis et eux aussi. Mais la langue est tellement difficile que j'ai pas pu l'apprendre. Alors, une dernière fois, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce vrai? Mes frères et sœurs, imaginez à la télévision un jour des Jeux Olympiques un vainqueur qui dise « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur ». Vous auriez pensé le dire « Il est faible, faible, plus que vaincu ». Et il y en a qui ont chanté comme ça tout à l'heure. « Je suis fort, fort. » Allez, viril. « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur ». Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Dites-le à votre voisin, à votre voisine. Tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, tu es fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, ton sauveur. Et nous disons, eh bien, mes frères et sœurs, on va regarder ce secret. Je vous proposerai deux lectures, une dans l'Évangile selon Luc, qui est très facile à trouver, au chapitre 21. C'est un extrait d'un discours du Seigneur Jésus, j'oserais dire un discours prophétique, quelques temps, quelques heures, avant son arrestation par la police de l'époque, voici ce qu'il nous dit au chapitre 21 de l'Évangile selon Luc, qui est le troisième évangile du Nouveau Testament. Nous lirons, si vous voulez bien, à partir du verset 33. Luc 21, 33. Voici ce que dit Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Alors pour vous, pour nous, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et nous pouvons dire, mes frères et sœurs, voilà un secret formidable dans le monde d'aujourd'hui.
Il nous dit au verset 36, cette parole toute simple, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. » Des fois, lorsqu'on est physiquement malade ou fatigué, on dit « C'est les forces qui reviennent pas. » Jérôme, j'ai beau faire des efforts, je me sens faible, les forces ne reviennent pas. Et l'Écriture nous dit, dans ce secret, que dans les derniers temps, pour avoir la force de tenir le coup, il faut employer la vigilance et la prière. Et il est nécessaire qu'en sortant du culte tout à l'heure, tous sans exception, nous puissions dire « Merci Seigneur, tu as renouvelé ma force !» D'accord ? Les problèmes n'ont pas changé à l'extérieur, mais vous allez les voir avec une nouvelle force. Alors, prenons cette deuxième lecture pour comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « la force ». Dans le livre du prophète Ésaïe, l'Ancien Testament, c'est un prophète facile à trouver. Regardez du côté des psaumes, passez. Vous arrivez au prophète Ésaïe, au chapitre 40. Et au verset 28. Nous commençons la lecture si vous le voulez bien. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatigue point, et nous pouvons dire... Amen. Mes frères et sœurs, ce texte est très important. Vous remarquerez qu'il nous est parlé de ceux qui se confient en l'Éternel, et la version hébraïque du mot est mieux, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui s'attendent à Dieu. Et ce matin, mes frères et sœurs, au culte, nous sommes venus pour dire au Seigneur, « Seigneur, je m'attends à toi et à toi seul. » La fatigue, nous la connaissons tous les uns et les autres, parce que nos forces, les forces humaines, ne durent pas toujours, elles s'épuisent. C'est normal, au bout d'une journée, de semaines de travail, de nous sentir fatigués. Rien sur la terre ne dure. Tenez, même la pierre, elle s'use avec le temps. Le fer, il se rouille. Et l'être humain, il vit un temps et puis il disparaît. La fatigue et la puissance de la vie nous use et nous réduit. Et puis si je pense au mental, parle du physique, mais je parle aussi du mental. Je me souviens d'une personne qui me disait, quand elle parlait des âgés, des personnes âgées, elle disait, ah, vous savez, faut pas vous en soucier de cette personne, elle est âgée. Et puis, comme elle est âgée, elle retourne un peu en enfance. Je sais pas si vous avez entendu cette expression. Retourner en enfance. Et quand on a atteint l'âge que j'ai atteint, et qu'on se souvienne de cette conversation, je dis souvent au Seigneur, est-ce que je suis vraiment retourné à mon enfance? Mais il ne m'a pas répondu pour le moment, alors on va aller continuer. Mes frères et sœurs, le physique, le mental, ça s'use. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, eux, ils renouvellent leur force. Parce que tout ce qui est divin, tout ce qui est céleste, tout ce qui descend du ciel, mes frères et sœurs, ne se fatigue jamais. L'Écriture nous dit que notre Dieu, il ne sommeille ni l'odeur, et c'est lui qui, par la grâce qui nous a été offerte, nous secourt et nous aide. Il nous est dit que même lui, 1000 ans, sont comme un jour. Un jour comme 1000 ans. Et ce Dieu-là, c'est notre Père à chacun d'entre nous. La grâce nous fait comprendre que sa vigilance, sa puissance et son autorité durent toujours. Et le Seigneur dira même à un homme qui a été très faible, il lui a dit, va avec la force que tu as. Et comme il n'en avait pas beaucoup, Dieu lui a donné toute sa force et il a été un grand vainqueur. Alors, regardons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il nous est dit que Dieu renouvelle les forces de celui qui s'attend à Dieu. Et je pense, mes frères et sœurs, que si je m'attends à Dieu, ça veut dire que je mets Dieu devant moi. Supposons que je sois zéro. Regardez-moi. Moïse Arou, c'est un zéro. Je pourrais même dire un double zéro. Un triple zéro. Et quand on se salue, on pourra dire « Salut à toi, triste zéro ». Mais savez-vous, mes frères et sœurs, qu'un chrétien zéro, s'il a Dieu devant, ça fait 10. Et s'il est double zéro et qu'il a Dieu devant, ça fait 100. Et s'il est triple zéro et qu'il a Dieu devant, ça fait 1000. Alors, ce matin, il est où, mon Seigneur ? Devant moi ? Ou derrière, ou sur le côté, il est devant moi. Je marche avec Jésus, il est mon berger. Ma sœur, mon frère, sans aller plus loin, si le diable te dit, tu es un zéro, eh bien tu lui dis, Satan, tu dis une chose vraie, parce que je suis un zéro, Dieu est devant moi, alors toi tu fiches le camp. Si Dieu est le numéro un de ma vie, plus je suis faible, plus je suis fort. Et cela va nous amener à découvrir, mes frères et sœurs, que plus nous sommes faibles, plus nous sommes forts par la grâce de Dieu, ça fait trembler l'enfer. Et la force que Dieu veut nous donner encore ce matin au culte, pendant le temps de la Sainte Cène, c'est de pouvoir aujourd'hui affronter les moments difficiles que notre monde est en train de connaître, avec les bruits d'une guerre, une troisième guerre mondiale, et peu importe tout ce qui se produit aujourd'hui, mes frères et sœurs, pensez bien qu'au-dessus de tout cela, il y a Dieu sur son trône. Et ce Dieu qui est sur son trône, c'est votre Père, c'est mon Père. Et l'Écriture nous dit, et vous êtes dans ma main, et nul ne vous ravira de ma main. Alors ne paniquons pas, frères et sœurs, à tout ce que nous pouvons entendre, et ne laissons pas la faiblesse nous gagner pour nous décourager, mais fixons, comme dit l'Écriture, nos yeux sur Jésus. Regardez, on va prendre un homme de la même nature que nous. Bon, si vous voulez, on peut prendre aussi une femme de la même nature que nous. Alors, un être humain de la même nature que nous, qu'est-ce que nous pourrions prendre comme étant quelqu'un qui nous ressemble ? C'est écrit même dans la Bible. Vous avez raison. Tenez, Élie était un homme de la même nature que nous. Un jour, l'Écriture nous dit que Élie s'est trouvé dans une situation épouvantable. Le pays d'Israël était dans une grande sécheresse. Eh bien, prenez votre Bible et voyez Élie. Élie, il parle, regardez-le, il parle et la pluie tombe. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il est fort, quand même. Il est fort. Allons plus loin dans la Bible. Élie fait venir tout le peuple. Et il dit, voilà, celui qui répondra par le feu, c'est vraiment Dieu. Alors, il prie leur Dieu, les idolâtres, rien ne se fait. Élie parle à Dieu. Élie prie Dieu. Regardez-le prier, écoutez-le prier, et regardez ce qui se passe. Le feu descend lorsque Élie prie le Dieu vivant est vrai. Est-ce que c'est vrai ? Bon, alors quand il prie et qu'il parle, la pluie descend. Quand il prie et qu'il parle, le feu descend. Mais attendez, c'est pas tout. On est en train de nous parler des Jeux Olympiques, mais Élie, dans le domaine de la course à pied, il était plus fort que tout le monde, plus fort que les chevaux, et pas simplement les deux chevaux. Le roi Akab avait des chevaux de race. Eh bien, Élie était capable de courir devant les chevaux. Croyez-vous que c'est vrai, ça? Mais quelle force? La force de Dieu. Alors, par la force de Dieu, la pluie descend, par la force de Dieu, le feu descend, par la force de Dieu, il court devant les chevaux du roi, et le roi ne peut pas le dépasser. Vous me direz, oui, mais enfin, c'était du temps d'Élie, plus près de nous. On va prendre un homme qui s'appelle Étienne, dans les Actes des Apôtres. Étienne avait une telle force, une telle puissance de l'esprit dans sa vie, que personne n'avait la force de résister à sa sagesse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mes frères et sœurs, eh bien, le Dieu qui animait ces hommes-là, c'est le même qui est à Paris, ici, dans cette salle, ce matin. Le même Dieu qui est en train de nous regarder, de nous écouter, de nous observer et de dire combien je les aime. Mes frères et sœurs, voilà la puissance d'Élie. Mais ne fixons pas les yeux sur l'homme. Alors certains disent, oui, c'est vrai, vous, les pasteurs, les anciens, les prophètes, mes frères et sœurs, regardez l'autre côté. Regardez le même homme. Après les grandes victoires, regardez cet homme vainqueur, peut-être au bout de 24 heures. Observez-le. Et qu'est-ce que vous voyez? Un homme qui court pour se sauver. Un homme qui fuit. Écoutez-le prier. Écoutez-le prier. Lui qui disait que la pluie descende, que le feu vienne. Écoutez-le prier. Le même homme. Je suis pas meilleur que les autres. Oh Dieu, je suis tout seul. La mort m'est préférable à la vie. Le même homme. C'est la raison pour laquelle, mes sœurs et mes frères, si on veut décourager, c'est de commencer à regarder les autres. C'est sur Jésus que nous devons fixer nos yeux. Sur Jésus, car il est le chef, l'auteur, celui qui est capable de conduire notre foi, les yeux fixés sur Jésus. Ne fixons pas même le plus grand des prédicateurs ou des prophètes. Ce n'est que des êtres humains. Mais si nos yeux sont sur Jésus, alors notre force est divine. Elle est forte, et par la grâce de Dieu, nous avons les plus grandes victoires. Car, si la force nous est retirée, c'est arrivé à quelques hommes. Tenez, on va prendre deux exemples rapides. Samson, c'est l'homme le plus fort. Eh bien, tant qu'il a eu la force de l'esprit en lui, il a fait des choses exceptionnelles. Et lorsque il attriste le Saint-Esprit, et que cette force de Dieu se retire, il devient aveugle, une marionnette qui tourne en rond et qui s'en sort pas. C'est vrai ou pas? Et Saül était un grand roi. Il était impressionnant, Saül. Mais quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül, il est devenu un homme agité, tourmenté et malheureux. C'est pas vrai? David était un homme fort face à un géant et quelques cailloux. Un petit caillou suffit pour tuer le géant. Eh bien, cet homme, David, a écrit un psaume dans lequel il dit « Ô Dieu, mon cœur s'agite, mon âme est troublée, car mes forces m'abandonnent. » Qu'est-ce qui s'était passé? S'était passé le fait que son foyer était par terre. Et l'Écriture nous dit, et il n'avait plus la force de pleurer. Parce que son foyer était par terre, sa femme était partie, les enfants étaient partis. Et à ce moment-là, mes frères et sœurs, il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Il s'est tourné vers ses amis qui étaient avec lui au début, quand tout allait bien. Parce que quand tout va bien, vous avez toujours des gens autour de vous. Mais si jamais par malheur, il vous arrive un pépin, ils en disent, oui, c'est vrai, mais... il doit y avoir des choses bizarres dans sa vie. C'est pas normal. Alors n'écoutez pas ça. Et l'Écriture nous dit, que lorsque David a essayé de regarder à droite à gauche pour avoir de la force, tous ses amis parlaient de le lapider. Ainsi, l'Écriture nous dit, il pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Mais il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Et c'est ce que nous allons avoir. L'Écriture nous dit, ceux qui s'attendent. Mes frères et sœurs, je crois que l'une des grandes choses que, enfin peut-être pas vous parce que vous êtes parfaits, mais une grande chose que j'apprends, je dois apprendre tous les jours, c'est savoir attendre. Savoir attendre. C'est tellement vrai qu'il y a dans certains établissements ce qu'on appelle des salles d'attente. Non, vous avez jamais été dans une salle d'attente du docteur X, W, Z. Vous avez ouvert la porte et vous avez vu que toutes les places étaient prises et que vous avez le numéro 12. Et ça, la salle d'attente, c'est quelque chose. Vous direz, mais non, hein. Vous avez jamais été dans un hypermarché pour passer aux caisses avec un petit panier, pas trop plein, et juste devant vous, des gros volumes. Votre femme vous a dit, va voir ailleurs s'il y a une autre place. Je garde la place. Elle garde le chariot, et là vous allez courir deux fois, et vous revenez en disant, oh, il y a une petite place là-bas. Alors vous quittez, hop, vous allez là, et pendant que vous allez là, un autre arrive et prend votre place. Non, ça vous est jamais arrivé. Mais mes frères et sœurs, la patience, c'est quelque chose que nous avons du mal à accepter. Et même quand on est enfant. Vous n'avez pas remarqué? Quelque chose pour un enfant, un petit cadeau ou autre, eh bien, on est obligé de leur dire, du calme, attends. Mais n'accusons pas les enfants. Moi, j'ai connu un monsieur chrétien, qui était très actif, très vivant, très nerveux, pas méchant, mais très nerveux. Et sa femme me disait, vous devriez venir le voir, nous visiter, parce que, oui, il est chrétien, mais alors, c'est une véritable mouche. Si jamais il est piqué, hop, il monte tout de suite, elle dit, c'est épouvantable. Alors, je vais le voir, on va prier ensemble. Écoutez, mon cher frère, il faut demander au Seigneur sa grâce. Vous savez que le fruit de l'esprit, c'est là. Qu'est-ce que vous lui auriez dit, vous? Vous auriez dit ça? Moi, je lui ai dit ça. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Donc, si c'est le fruit de l'esprit, ça, c'est une grâce de Dieu que Dieu vous donne. On va prier. Ah, mes amis, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Il s'est mis à prier. Et il a dit, Seigneur, tu as entendu ce que le pasteur m'a dit? Eh bien, donne-moi la patience et tout de suite. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur, qui s'attendent au Seigneur, qui sont patients et qui attendent le Seigneur, cela renouvelle leur force. Oui, mes frères et sœurs, et regardons rapidement, s'il vous plaît, différentes façons pour pouvoir renouveler nos forces. L'Écriture nous le dit, quand Jésus un jour a vu une grande foule qu'il avait suivie depuis 3 jours, ils étaient venus de loin, Jésus a dit, mon âme est pleine de compassion, je ne peux pas laisser partir ces gens-là, ils sont venus de loin sans nourriture. Et voici les nourritures qui vont nous donner de la force. Vous le savez, la première, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Écriture nous montre que la parole de Dieu est une nourriture pour nos âmes. La seule parole que Satan craint, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque vous la prononcez, mes frères et sœurs, il faut pas qu'elle soit arrangée, il faut qu'elle soit vraie. Parce que si il y a une petite nuance, le diable connaît mieux la Bible que nous, souvent. Et s'il a une petite nuance, alors il s'en sert. Exemple, Ève. Quand Satan vient lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Alors elle ajoute un mot que Dieu n'a pas dit.
Et ça, c'est tombé dans l'oreille de Satan. Il dit alors, donc elle n'est pas très sûre. Et ça l'a entraîné dans la chute. Mes frères et sœurs, tous les jours, pas nécessaire de lire des chapitres et des chapitres, tous les jours, nourrissons-nous d'au moins d'un verset que j'apprends par cœur, que je mets dans mon âme, et quand je me trouve dans la difficulté devant l'adversaire, je dis exactement ce qui est écrit. Jésus, d'ailleurs, nous dit, qu'est-il écrit et que disent les Écritures ? Nourrissez-vous, mes sœurs et mes frères, de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et chaque fois, vous pouvez fermer la bouche à Satan.
Je me souviens d'un vieux frère qui ne pouvait pas venir aux réunions, parce qu'il était âgé et fatigué, et qui était un petit peu en dehors de tout. Et le témoignage qu'il me donnait, c'était celui-ci. Il me dit un jour, j'étais frappé, découragé, j'avais plus de force, et une pensée est venue dans ma tête. Tu vois les chrétiens, tes frères et tes sœurs, il n'y a personne qui te vient te voir. Toi, tu es âgé. Il n'y a personne qui te téléphone. Toi, tu es âgé. Il n'y a personne qui prend de tes nouvelles. Tu es tout seul. Où ils sont tous ceux qui étaient avec toi quand tu allais avec eux dans l'assemblée? Et il m'a dit, pendant plusieurs jours, ça m'a tourné dans la tête et j'ai eu de mauvais sentiments dans mon cœur pour mes frères et sœurs de l'assemblée. Lorsque, en ouvrant ma Bible, j'ai trouvé cette parole de Jésus que je connaissais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il me dit, le soir, avant de m'endormir, voilà que le diable me dit encore, tu vois bien que tout le monde t'a laissé, tu es tout seul, tu vas mourir tout seul. Alors il m'a dit, je me suis assis dans mon lit et j'ai dit, Satan, tu mens. Jésus a dit, je suis avec moi. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, alors tu fiches le camp maintenant. Et puis depuis ce jour-là, j'ai la paix. La parole de Dieu ferme la bouche de Satan. Jésus l'a employé dans sa tentation. Quand il a cité la parole de Dieu a fait taire Satan. Mes sœurs et mes frères, il n'y a pas d'autre puissance que cette parole de Dieu, cette force de Dieu, parce que par la parole, Dieu a créé le ciel et la terre. Et par la parole, Dieu est capable de nous garder. Et par la parole, Satan est vaincu. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Et si tu la connais, que tu l'emploies, tu seras toujours vainqueur. La deuxième source pour renouveler nos forces, eh bien, mes frères et sœurs, c'est la personne de Jésus. Jésus a dit que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Sa nourriture. Que Dieu nous permette d'être disciples de Jésus-Christ et que notre nourriture, c'est de chercher toujours à faire ce que Dieu veut. Non pas ce que j'imagine, non pas ce que je reçois, mais de ce que Dieu veut par le Saint-Esprit. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Dieu. Et Jésus a dit, celui qui mange ma chair, mon corps qui est brisé, on va le faire à Sainte-Seine tout à l'heure, celui qui boit mon sang, à la vie éternelle, parce que ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un. Et ça, c'est toute la vie de Jésus. Ainsi, mes frères et sœurs, si on se nourrit et de la parole et de la vie du Seigneur Jésus, nous avons l'assurance de la victoire totale. Troisième élément. Le troisième élément, la parole, la personne de Jésus. Et alors la troisième, mes frères et sœurs, là le Seigneur le dit, je ne vous laisserai pas tout seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, je vous enverrai le Consolateur, qui c'est ? Le Saint-Esprit. Et que nous dit la Bible ? L'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. Ainsi nous avons là encore une source de force, le Saint-Esprit. Alors certains disent, oui, mais il faut qu'il descende. Mais il est descendu, le Saint-Esprit. Ça fait plus de 20 siècles qu'il est descendu sur la terre. Et s'il n'agit pas de la façon dont on l'imagine, c'est parce que peut-être nous l'avons attristé. Mais il est là. Le Saint-Esprit est là ce matin. Ouh. Jésus est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, mais je le sais.
et je sais en qui j'ai cru. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit nous aide dans la faiblesse, parce qu'il nous aide aussi dans la prière. Alors, pour terminer, qu'est-ce que fait la force de Dieu, à votre avis? La force de Dieu, elle fait quoi? Et comment je sais que je l'ai ou comment je sais que je ne l'ai pas? On l'a lu dans Ésaïe. Nos forces de Dieu se renouvellent, oui. Alors, les trois éléments de la force de Dieu. C'est écrit.
Le pasteur qui se nourrit de la personne de Jésus.
Ceux qui se confient dans la personne de Jésus, ceux qui se laissent remplir par le Saint-Esprit, ils font trois choses. Oui, mes frères et sœurs, la première chose que fait la parole de Dieu dans nos vies, c'est écrit, ils prennent leur vol. La force de Dieu, c'est que cette grâce qui nous est donnée de passer par-dessus. S'envoler, c'est passer au-dessus. Hein? Des fois, on dit, oh, je peux pas mettre ça au-dessus de moi. Mais, l'Écriture nous dit que la force de Dieu, c'est de passer au-dessus, survoler, monter, plus haut. L'Écriture nous dit, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vers Jésus, lève les yeux et tu verras son visage merveilleux. Mes frères et sœurs, la première action de la force de Dieu, c'est cette possibilité qu'il nous donne de pouvoir nous élever au-dessus et de surmonter, je dirais même, de prendre de la hauteur. Devant les événements qui vous frappent, ma sœur, mon frère, si tu as la force de Dieu, cette force va t'élever. Des fois, dans l'assemblée, on chante « Je veux monter ». C'est là que là. Qu'est-ce que je vais faire? Sur ce chemin, Jésus monta, et mon Sauveur me précéda. Avec lui, je veux m'élever. Jusque sur les plus hauts sommets, sur ce chemin Jésus, alléluia, et mon Sauveur me précéda, avec lui je veux m'élever, jusque les plus hauts sommets. Je veux laisser les joies du monde et je veux que mon cœur soit rempli de la grâce de Dieu. La première chose que fait la force de Dieu, c'est cette grâce qui nous est donnée de passer par-dessus, de surmonter les problèmes et les difficultés. Quand vous avez un chrétien qui dira « Je ne viens plus à l'église parce que tel et tel et tel a dit ceci ou a fait cela », dites-lui « T'as besoin de la force de Dieu. » Parce que la force de Dieu te permet de surpasser tout ça. Tu passes au-dessus. Et chaque fois que vous entendez ce raisonnement, je n'y vais plus parce que, alors priez, parce que ce frère ou cette sœur a besoin de la force de Dieu. La force de Dieu, elle est miraculeuse, elle te permet de surpasser, de dominer, d'être au-dessus des choses de la terre et d'être toujours, plus ou moins, par la grâce de Dieu, fort et vainqueur. La deuxième chose que fait la force de Dieu, c'est pas simplement une puissance qui va m'élever, c'est une puissance qui me fait courir. Tiens, c'est quoi ça? Courir, mes frères et sœurs, ça parle d'énergie. Là, regardez tout à l'heure en venant au culte, tous les gens dans le bois de Vincennes, là, je me demandais où c'est qu'ils couraient, tous ces gens-là. Ils couraient, ils faisaient leur jogging. Hein? Eh bien, celui qui se confie en Dieu, l'Écriture nous dit, il renouvelle ses forces et il court. L'Écriture le dit, je cours. C'est l'apôtre Paul qui dira, je cours vers le but. Cette énergie, je l'ai. Quand Élie a été fortifié par la grâce de Dieu, il était capable de courir devant les chevaux. Et l'apôtre Paul dit, je fais tout cela pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Frères et sœurs, la deuxième grâce que Dieu nous donne, la deuxième force, c'est pas simplement celle de surpasser, c'est aussi celle de tenir énergiquement et de remporter la victoire par la grâce de Dieu. Je cours vers le but de cette grâce que Dieu m'a donnée. Et la troisième chose, la marche. Car il est écrit que ceux qui se confient en Dieu, leur force augmente pendant la marche. Marche avec Dieu. L'Écriture nous parle d'un monsieur qui a marché longtemps. Oui, le pasteur gentil vient de me souffler le mot. Oui, comment ? Enoch, 30 ans, 40 ans, 50 ans ? Oui, oui, allez-y, dites-le, n'ayez pas peur. Ça fait combien de siècles, ça ? Et l'Écriture nous dit, et il ne fut plus, parce qu'il était fatigué. Mais non, parce que Dieu l'a enlevé. Mes sœurs et mes frères, l'Écriture nous montre par là que les forces, la force de pouvoir marcher nous a été donnée par la grâce du Dieu vivant et vrai. Et je voudrais terminer par cette pensée. Quand Élie nous est présenté dans la Bible, il nous est présenté comme étant un homme fort. Le vent, la pluie, le feu. Ensuite, il nous est présenté comme étant un homme faible. J'en peux plus. Mais ensuite, il nous est présenté, après avoir mangé et s'être rempli le cœur de la parole de Dieu, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, dans le désert. Donc là, il a été plus fort qu'avant. Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut, qu'en quittant le culte ce matin, tu sois plus forte, plus fort qu'avant. Qu'il donne la force de surmonter les difficultés et par la grâce de Dieu, faire de toi un vainqueur dans tous les domaines de la vie. L'Écriture nous dit, j'ai noté ce texte dans le psaume, mais j'ai noté aussi ce texte de Paul aux Corinthiens, « Ma grâce te suffit ». Dans le fond, la force de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Or, mes frères et sœurs, gardez simplement dans tout ce que je vous ai dit trois choses. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. La première, le Seigneur me donne la force de surmonter. Ok ? Deuxièmement, le Seigneur me donne la force de courir, l'énergie. Et troisièmement, la force de marcher. Ça, mes frères et sœurs, c'est la routine. Marcher, c'est la routine, hein, c'est l'habitude. Eh bien, vous avez qu'à remarquer que, c'est curieux, hein, il n'est pas parlé de marche, course et s'envoler. Il est parlé en vol, cours et marche. Premièrement, les choses d'en haut. Deuxièmement, l'énergie avec les choses d'en haut. Et troisièmement, par la grâce de Dieu, marche, marche et avance en continuant le secours et la grâce de Dieu. Mes sœurs et mes frères, si tout à l'heure, en rentrant chez vous, vous apprenez des mauvaises nouvelles, peu importe, rappelez-vous que la force de Dieu, c'est la présence de Jésus avec vous. Il est écrit, quand nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Et moi, j'ai noté ceci, quand vacille notre courage, quand nous sommes en train de couler, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a un apôtre qui est en train de couler, mes frères et sœurs. Il se sent couler, il se sent mourir. Et qui c'est qui est à côté de lui à ce moment-là? Il s'appelle Pierre, et Pierre est en train de se noyer. Jésus, sauve-moi! Et où est Jésus? Où est Jésus? À côté. Pas vrai? Il est juste là. Un autre endroit où l'apôtre Pierre a besoin de la grâce de Dieu. Plein de zèle, il prend son épée. Il est arrêté par la police de l'époque. Il prend son épée, il veut mettre un coup d'épée sur la tête de quelqu'un, il lui coupe l'oreille. Imaginez qu'aujourd'hui, vous coupiez l'oreille d'un commandant des CRS. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y aura une première dans les journaux. Et vous retrouverez en détention. Il coupe l'oreille. De quoi créer encore un problème supplémentaire? Eh bien, qui c'est qui intervient à la seconde? Parce que Jésus est où? Quand Pierre est en train de renier son maître,
quand il dit pour la N fois, je ne connais pas,
il y a quelqu'un qui le regarde. Et quand il le regarde, et quand lui regarde celui qui le regarde, quand il regarde Jésus, il se met à pleurer. Mes frères et sœurs, rappelez-vous ceci, il est toujours à vos côtés. La force de Dieu est à vos côtés. La force de Dieu est là, et celui qui se confie en Dieu, qui s'attend à Dieu, qui accepte d'attendre, le moment et l'heure de Dieu est toujours plus fort. Si tu veux cette grâce, elle va t'être donnée, la force de surmonter, la force d'avancer, la force de marcher et la force de vaincre. Que Dieu vous bénisse et vous fasse grâce.